France Inter.
Je suis arrivé en France pour fuir Israël. Fuir cet état méchant, obscène, ignorant, idiot, sordide, fétide, grossier, abominable Dieu, lamentable, répugnant, détestable, abruti, étriqué, bas d'esprit, bas de cœur.
Aucun pays n'est tout ça à la fois. Choisis.
Enfin, comme on veut.
Notre invité ce soir, le cinéaste israélien Nadav Lapid, dont vous avez entendu il y a quelques secondes la bande-annonce. Son film sort demain sur tous les écrans en France. Il s'intitule Synonyme. C'est son troisième long métrage et c'est une véritable gifle. Et comme chaque soir, on va commencer en musique avec Nancy.
I followed you to Texas. I followed you to Utah.
We didn't find it there, so we moved on.
I followed you to Alabama. Things looked good in Birmingham.
We didn't find it there, so we moved on. I know you're tired of following my elusive dreams and schemes, for they're only fleeting things, my elusive dreams.
I had your child in Memphis. You heard of work in Nashville.
We didn't find it there, so we moved on to a small farm in Nebraska, to a gold mine in Alaska.
Didn't find it there, so we moved on.
And now we've left Alaska because there was no gold mine.
But this time, only two of us move on. Now we have each other and a little memory to cling to.
And still you won't let me go on alone.
I know you're tired.
Pourquoi mettiez-vous des grosses pierres dans votre sac à dos pour arpenter la plage de Tel Aviv sous un soleil écrasant quand vous étiez adolescent ? Nadav Lapid.
Bonsoir.
Bonsoir.
Parce que je voulais être un héros de guerre, je voulais être un bon soldat. Je voulais plaire à mes futurs commandants, mes futurs officiers. ma patrie. Et je voulais être un chevalier, un cowboy au service de l'État d'Israël.
Vous avez réussi?
Presque trop. Et je pense que j'étais un bon soldat. Je ne sais pas si c'est quelque chose de forcément positif. Peut-être le contraire. Mais j'étais extatique, enthousiaste, rempli d'ardeur, de fervescence. Je rêvais tout le temps sur les éventuelles aventures. J'ai prié chaque jour qu'une guerre éclate. J'ai senti tout le temps une sorte de gloire militaire qui m'attend ou qui est déjà là. J'ignorais la possibilité de mourir, ou même si j'ai pensé de temps en temps sur ma mort, elle me paraissait anecdotique. Je n'ai pas attribué à la mort la gravité et l'importance qu'elle mérite. Et comme chaque bon soldat, je pense que j'étais complètement détaché de la vie et de l'existence. Et ça m'a rendu un très très bon soldat. Ouais.
Mais cette exaltation patriotique que vous subissiez ou que vous traversiez durant votre adolescence, c'était le fruit d'une éducation?
Non, c'est peut-être c'est ça ce qui est même plus radical ou plus étonnant, que c'est pas du tout quelque chose que j'ai reçu. Enfin, mes parents, surtout ma mère, son plus grand espoir aurait été que je trouve un moyen ou un autre de m'exempter du service militaire. Elle voulait surtout pas que je le fasse. Elle voudrait que j'essaye de déclarer que je suis, je sais pas, Hare Krishna, que je suis pour toute chose qui aurait pu m'aider à peut-être à fuir ce service militaire qui est en Israël obligatoire. Mais moi, je crois que j'étais sensible à mon entourage. Mon entourage social, mon entourage m'a dit, ou m'a, enfin, j'avais l'impression que mon entourage m'a dit, me demande, m'ordonne, me supplie d'aller au bout de mon service militaire.
Vous avez fait plusieurs films, Nadav Lapid, dont le second s'intitule L'institutrice. Il a eu beaucoup de succès en France, un succès amplement mérité. Il est question du rapt d'une institutrice dans une école maternelle aujourd'hui en Israël. Et il est surtout question d'un petit garçon qui doit avoir 3-4 ans et qui est une sorte de prophète. De lui, de sa bouche, de son corps, de ses yeux, émane une sorte d'aura, de mystère. Et il prononce des paroles qui sont de l'ordre d'une poésie intense et magnifique. Vous étiez comme cela quand vous étiez petit?
Il paraît. Enfin, il paraît parce qu'il y a dans un tiroir dans la maison de mes parents, il y avait des tas de papiers rajeunissants sur lesquels étaient écrits les poèmes que j'ai dicté à ma nounou quand j'avais 4 ans ou 5 ans. Mais enfin, pour moi c'est une sorte d'histoire, c'est une sorte de légende. Enfin, moi j'ai aucun souvenir de cela, mais le fait que, enfin, les poèmes sont là et ils servent d'une sorte de preuve de mon enfance.
Enfant prophète, adolescent guerrier et adulte comment?
Peut-être le mélange de tous les deux, je pense. Peut-être aller faire la guerre avec en utilisant des mots, enfin, combattant des mots, après combattant des images. Peut-être c'est un peu le mélange. Je pense que je suis arrivé, enfin. Je me suis enfui un peu d'Israël, bien que personne m'a poursuivi. C'était, je pense, moi-même qui m'a poursuivi, ou cet être, le sentiment de rejet total, de sentiment qu'il faut que je parte tout de suite afin de me sauver, qui m'a poussé à partir d'Israël un an après la fin de mon service militaire et atterrir à Charles de Gaulle pour trouver là-bas une nouvelle vie, une nouvelle identité, pour me transformer en une nouvelle personne, enfin à quelqu'un d'autre, pour cesser d'être de toute façon la personne que j'étais. Et une des choses les plus marquantes que j'ai fait en arrivant, c'est renoncer à mes mots. Enfin, j'ai arrêté de parler en hébreu. Donc je me suis dit, face à un défi pareil, il faut faire le sacrifice le plus douloureux possible. Et ça, c'était renoncer à mes mots, renoncer à l'hébreu. Je me suis interdit de parler en hébreu. Je me suis dit, plus jamais un mot en hébreu sortira de ta bouche. Et par contre, je me suis plongé à l'apprentissage du français.
Et c'est pour ça que vous vous exprimez en français ce soir en direct dans ce studio à France Inter. Et ce que vous racontez, c'est ce que vous réussissez à transcrire de manière cinématographiquement éblouissante dans ce nouveau film intitulé « Synonyme » au pluriel, qui va sortir demain sur les écrans. J'ai l'impression que, à travers tous vos films, il y en a eu que trois, mais il y a eu des moyens métrages, mais il y a eu trois longs métrages, Nadav Lapid, et à chaque fois, il y a une grammaire cinématographique exacerbée, un sentiment d'intensité, de très grande violence qui nous prend chacun de nous, spectateurs, en voyant vos histoires, qui nous plonge dans une sorte d'apnée, d'émotion vraiment terrible. Mais c'est peut-être parce que vous-même, vous vous mettez en jeu dans chacun de ces trois films, et c'est votre propre histoire que vous transcrivez dans ce dernier synonyme, comme si, au fond, vous étiez poursuivi par une malédiction. Vous avez ce sentiment-là ?
Oui, absolument. Enfin, j'avais... Vous demandez si à l'époque j'avais ce sentiment-là. Oui, j'avais l'impression, c'est même... pire d'une certaine manière. Je pense que c'est un peu comme ce qu'on voit dans un film d'horreur. J'avais l'impression que la maladie est à l'intérieur de moi-même, que cette âme israélienne collective qui s'est dégénérée et qui s'est enlaidie, et aussi ma propre âme à moi, que le démon gît à l'intérieur de moi, dans mes tripes, mon ventre et ma tête. Et que quand je me regarde dans le miroir, je vois la chose dont je m'enfuis, dont je fuis. Donc dans ce sens-là, c'est presque comme une sorte de film d'horreur. Et oui, j'avais l'impression qu'il faut... qu'il y a que des moyens durs, agressifs, violents, sans pitié, sans aucune concession, qui pourront peut-être enlever cette chose. Je ne veux pas dire cette humeur, mais cette chose-là. Et ouais.
Je vous propose d'écouter la voix d'Emmanuel Lévinas, qui va répondre à la question « Qu'est-ce qu'être juif ?» C'est vraiment une question qui vous obsède, qui vous tourmente et qui est le cœur battant de votre propre cinématographie, Nadav Lapid. C'est une archive INA du 14 novembre 1976.
C'est une question que je ne me suis jamais posée. Comme je ne me suis jamais posé la question pourquoi je suis un homme. Voilà ce qui décrit le juif d'une manière banale. Hein, et qui n'entre pas peut-être dans le fond de ce que cela est, n'est-ce pas ? Alors quand on réfléchit sur ce que cela est, il faut parler de choses, il faut parler des valeurs, hein, c'est absolument insupportable le mot valeur, l'être incompromis, vous savez, n'est-ce pas ? Il faut parler de certaines valeurs, il faut parler de gens qui ont une conception rigoureuse du divin, et qui sente le divin dans tout ce qui est très haut, dans tout ce qui est sans compromis, dans tout ce qui est unique, hein, même quand ils sont athées, hein, même quand ils se souviennent du judaïsme d'autrefois. D'ailleurs, les juifs d'aujourd'hui sont comme tous les autres hommes, n'est-ce pas, mais ils se souviennent de ce qu'ils ont été ou de ce qu'ils ont oublié. Ils se souviennent de ce qu'ils ont oublié.
Vous souscrivez à la définition d'Emmanuel Lévinas, vous qui avez fait des études de philosophie avant de vous jeter dans le cinéma, Nadav Lapid?
Oui, mais c'est-à-dire cette existence du divin, ce souvenir de ce que vous avez oublié, absolument. Je crois que pour moi, ce qui se passe souvent en Israël, c'est que il y a une sorte de sentiment de grandeur et de sainteté, mais qui est finalement, est-ce qu'il est toujours basé sur, encore sur le divin, ou est-ce que c'est déjà le diabolique ou démoniaque qui l'a remplacé? Et évidemment, quand on joue tout le temps des concerts consacrés au diable, on se trouve dans un état très sombre. Et je crois qu'on... C'est-à-dire, je crois qu'il y a encore ce côté nation de la Bible. Mais la question est, qu'est-ce que ça contient, cette Bible, au-delà de ces sentiments de importance que les gens en Israël attribuent à eux-mêmes?
Ben, je lisais dans une dépêche pour préparer cette émission tout à l'heure que, au moment de la préparation des élections législatives qui vont bientôt avoir lieu dans votre propre pays, en début avril, Nadav Lapid, que les discussions entre les différents candidats et les différents partis portaient pas du tout sur le conflit israélo-palestinien, mais portaient sur une espèce de surenchère sécuritaire.
Oui, enfin, je pense que les conflits, c'est-à-dire, si vous, je crois que ce qui est assez fou aujourd'hui dans la politique israélienne, c'est que le conflit israélien-palestinien n'est pas du tout résolu, évidemment. On est là encore au milieu, ou peut-être déjà vers la fin, interminables représailles à Gaza, avec encore de victimes et de la souffrance, etc. Mais les Israéliens, ils s'ennuient de ça. Pour eux, c'est comme un film de 4 heures qui refuse d'aboutir à sa fin, alors quoi, tout le monde a déjà tout compris. Donc, il y a une sorte de synchronisation, comment on dit, désynchronisation, et très étrange entre la conscience collective du pays et l'état réel des choses. Je veux dire, je pense que si... au monde entier, ou au moins les gens qui s'intéressent en Israël, sont convaincus que les grands débats en Israël, c'est oui, non, paix, guerre, Palestine, Israël, etc., etc. Pour les Israéliens, tout cela, c'est des pâtes qui étaient réchauffées trop des fois.
Ah ben les pâtes, vous en êtes un spécialiste, vous en êtes un amoureux, puisque dans votre dernier film Synonyme, le personnage principal, qui vous ressemble étrangement, qui est un jeune homme qui, après un séjour à l'armée en Israël, décide de quitter son propre pays pour essayer de trouver une nouvelle vie, donc en France, va se retrouver sans argent dans un Paris un peu misérable et dans une toute petite chambre d'hôtel, comme il faut bien qu'il bouffe. eh bien, il va acheter au petit supermarché du coin des pâtes, de la sauce tomate et basta. Et tous les soirs, pendant son séjour parisien, il ne mangera que ses pâtes. Ça, c'est vrai ?
Oui, c'est vrai. En fait, regardant en arrière, c'est comme si... C'est étrange parce que je me dis que cette période parisienne était donc au-delà peut-être de tout, une sorte de post-trauma ou rejet de ma période militaire. Mais en fait, il y avait beaucoup, beaucoup de choses en commun, quoi. Et ces côtés...
Vous êtes astreint à une vie militaire, enfin, ou votre personnage de votre film s'est astreint à une vie aussi militaire en France que lors de son séjour à l'armée.
Oui, oui, c'est ça, c'est discipline, manger tous les jours le même repas, le repas moins cher possible, exactement en même temps, avec exactement les mêmes ingrédients, qu'on prépare exactement de la même manière. En plus, dans le film, le personnage principal porte tout le temps son manteau moutarde. Donc, d'une certaine manière, on peut dire...
Couleur moutarde.
Couleur moutarde, oui, qu'on peut dire qu'il a remplacé des uniformes avec... Enfin, des uniformes kaki avec des uniformes moutarde. Et dans ce sens-là, il y avait beaucoup, beaucoup de choses finalement en commun. Mais oui, les pâtes, je suis devenu une sorte de spécialiste. En même temps, je ne conseille personne de suivre cette recette.
Ça veut dire quoi pour vous, Nadav Lapid? Parce que cette question s'impose après avoir vu vos trois films et plus particulièrement le dernier, Synonyme. Ça veut dire quoi être juif?
D'abord, être juif, c'est surtout ne pas être israélien, ça c'est sûr.
Vous voulez dire que les Israéliens ne sont pas des juifs?
Je crois que sans trop idéaliser l'existence juive, mais je crois que, enfin, il y a une sorte de blague un peu amère qui dit que la solution finale de la question juive, c'est l'État d'Israël. Et je crois que ce qui a été...
Mauvaise blague quand même, hein?
Mauvaise blague, mais peut-être pas si erroné que ça. Enfin, je crois que ce qui a été finalement fabriqué et créé en Israël, au moins, par rapport à pas mal d'aspects, c'est justement tout le contraire. C'est-à-dire, c'est face à une existence cosmopolite qui a un grand respect pour le discours dialectique, pour les doutes, pour les questions, pour l'humour, pour l'autodérision parfois. Pour les mots, pour les paroles, il y a quelque chose de complètement opposé qui sanctifie l'action, l'acte, le corps, être rassuré, ne pas douter, ne pas poser trop de questions, ne pas être bavard et avoir évidemment ta propre patrie, ta propre maison nationale. Après, moi, je dois dire que je me sens beaucoup plus israélien que juif. C'est-à-dire, je vois peut-être, je pense que je peux voir avec une certaine, je pense, lucidité, tout le défaut de cette entité-là. Ça ne veut pas du tout dire que j'en fais pas partie.
Nadav Lapid, vous avez une curieuse manière de filmer le réel. Depuis le premier film, Le Policier, puis ensuite dans L'Institutrice, puis encore plus dans celui-ci, Synonyme, votre caméra s'intéresse au corps. Et votre caméra est souvent en train de filmer le bas des corps, c'est-à-dire les pieds, les jambes. Et petit à petit, la caméra monte pour découvrir... au bout d'un temps qui nous paraît très long, spectateur, le visage. La caméra, elle s'insinue à l'intérieur de votre manière de tisser le récit des vies que vous allez nous restituer. Elle nous accompagne. Elle est comme un regard, comme notre regard, nous qui regardons l'écran en train d'essayer de comprendre ce que vous nous dites. Qu'est-ce que ça veut dire filmer avec une caméra qui est comme une sorte d'œil vivant, de cœur battant?
Oui, enfin, je crois que par rapport à ce que vous avez dit auparavant, les hanches, les pieds, les jambes, je crois qu'il y a, enfin, il y a une sorte de tendance de qui existe très souvent dans le cinéma, de focaliser sur les paroles en tant que véhicule pour raconter un récit et d'oublier que ces mots sortent d'une bouche qui a un visage et qui a un corps. C'est-à-dire, même là, on est en train de parler, mais on a tous les deux, on a des hanches et des jambes et des pieds. Et c'est curieux de penser sur nos hanches alors que tel ou tel mot sort de notre bouche. Et je crois que la caméra doit tout le temps respecter ce qui est dit, mais aussi le contredire. Montrer la parole et montrer aussi tout ce qui n'est pas parole. Et je crois que la vérité du moment, ou la vérité des paroles, ou la vérité des mots, se trouve là. Quand les paroles sont tout et sont rien à la fois.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical. Attention, de Nadav Lapid, c'est Dans le club TTC.
TTC dans le club, salope avec la foule. Je suis guidé par ma tête, ici ça pue trop la choune. Mon crâne est épaisse et tes hanches, toi ma belle. Dépense pas sans cesse que je pense qu'à tes quelles. Mais fais vite tes copines pour la queue à la même. On peut partager si t'es pas affamé. Cuisinier est un homme qui a de l'amour à donner. Si t'es pas moudré à mon corps, reste abonné.
Entraîneuse qui me charme, striptease sur podium. DJ qui assure, bienvenue dans le vivarium. Ce soir ma chérie t'es une star. On met du sang-fils, ça se lit sur les lèvres, à boire. Ça transpire et crève de chaleur corporelle. Certaines meufs ont besoin de s'aérer les idées. Pourquoi attendre plus tard pour flasher sur la piste? C'est mon disque qui joue, mes couches dessus. Permat sur le pitch, nouveau statut. Dans l'espace VIP, son passe-partout.
Quand le maître de TTC débarque dans le club, avec leur dégaine devant leur moitié sec, moitié nerf. Tout d'un peu plus mec, vous sentez quelque chose de bizarre dans leur cœur.
Jeune Nadav Lapid, pardon, le jeune Yoav, c'est le nom du personnage de Synonyme, votre nouveau film, Nadav Lapid, qui arrive à Paris Je pense qu'il n'a pas beaucoup d'argent pour aller dans les boîtes de nuit. Vous l'avez dit tout à l'heure, il mange des pâtes tous les soirs et il habite dans une petite chambre de bonne. Où avez-vous entendu cette musique? C'est quand vous étiez à Paris?
TTC.
Oui, TTC.
TTC, je l'ai entendu une fois par un pur hasard. Je pense que c'était... Il y avait une sorte de librairie dans les Marais où j'ai affiché des annonces pour trouver un travail en tant que modèle.
C'est ce qui est raconté dans le film, donc c'est vraiment ouvertement un film autobiographique.
Oui, enfin, il y a pas mal d'aspects autobiographiques. Donc moi j'ai mis des petites annonces là-bas, et une fois j'ai entendu TTC, j'étais complètement enchanté, charmé par ça. En général, je pense que je rêve de faire des films qui soient aussi direct, simple, fort et cru comme une chanson rap. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose, vous savez, il y a quelque chose dans le cinéma que le cinéma commence pour moi avec une idée, une réflexion, une image, une pensée. Et puis il y a beaucoup de gens magnifiques qui vous entourent, mais en même temps qui petit à petit vous éloignent de ces petits cris que vous avez poussé tout seul, à 3 heures du mat, face à l'écran ou face à la lune. Et d'une certaine manière, quand je suis au tournage, j'essaye de revenir à ces moments intimes. C'est comme si j'ai toujours ce rêve d'éloigner tout le monde et de me coller à l'écran ou de coller à l'objectif. Un baiser ou de pousser un cri ou de la pousser ou de faire tout cela ensemble.
Ben vous réussissez, Nadav Lapid, parce que on va reparler de votre premier long métrage, Le Policier. C'était un film divisé en deux parties. Une première qui restituait la vie quotidienne à l'armée, la vie collective, filles et garçons mélangés, avec cette espèce de corps collectif un peu vénéneux qui est obligé de se constituer et avec la mort omniprésente. Et puis tout d'un coup, boum, sans du tout prévenir le spectateur, sans aucune justification, c'était pourtant le même film, on était pourtant dans la même salle de cinéma, on regardait le même écran et nous voilà partis, grâce à votre magie, à votre décision dictatoriale d'une certaine façon, vers une autre histoire qui était celle d'un groupe de jeunes gens qui avaient décidé de faire un attentat. Donc ça veut dire que la continuité scénaristique pour vous, ça n'existe pas. Alors le cinéma, c'est quoi?
Le cinéma, c'est une vibration pour moi. C'est une vibration. C'est quand les choses vibrent de la même manière et vibrent de plus en plus, vibrent avec une proximité et distance à la fois. Et moi... C'est ça finalement, ce qui m'intéresse, c'est ce qui me fascine. Et si je ressens qu'il y a la même vibration, on peut pour moi passer d'un film sur les Esquimaux au pôle Nord à un film sur les crocodiles en Argentine.
Donc le cinéma, c'est la tentative de transmettre une émotion, soit qu'on a traversée soi-même et qu'on voudrait restituer, soit une quelque chose qui vient du corps.
Mais les mots émotion, je pense que c'est à force d'être trop utilisé, c'est presque des mots qui sont prostitués avec le temps. Enfin, je trouve que une idée peut être aussi très 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 émouvante, très émotive, très émotionnelle. Des mots peuvent vibrer aussi. Une idéologie peut être aussi vibrante que des émotions simples. Je pense que c'est la sensation de l'existence qui nous entoure, qui vibre. Et c'est ça ce que je cherche, la vérité de l'instant, la vérité de l'existence, aller au bout de la vérité de l'instant tout le temps. Et cette vérité, pour moi, elle est presque toujours à la fois cruelle, dure, joyeuse, donc vibrante.
La vérité de l'existence, c'est peut-être cela qui fonde votre cinéma, Nadav Lapid, et ce depuis le début, et plus particulièrement dans ce nouveau film, quand Yoav arrive à Paris, on ne sait pas bien pourquoi, mais on sait qu'il est perdu dans tous les sens du terme. Il n'a plus de repères, il ne veut plus de sa langue, il ne veut plus de son histoire, il ne veut même plus avoir de nouvelles de ses parents. Il a coupé avec son amoureuse, il a coupé avec sa famille, il a coupé avec son pays. Il n'a plus qu'un corps, et ce corps qui est très beau, c'est celui d'un jeune homme très beau, mais qui ne sait pas qu'il est beau. Ce corps va être dénudé, va être violenté dès le début, et ce corps, c'est tout ce qui lui reste. Et pourtant, ce corps qui va être en proie à la nudité, il va être obligé de se retrouver tout nu comme un ver. Eh bien, de ce corps émane une pensée profonde. Alors, je vous propose d'écouter la voix de Gilles Deleuze, qui va évoquer la lenteur du corps et de la pensée. C'est un extrait de son séminaire sur Spinoza, donné à l'université de Vincennes le 2 décembre 1980.
Si je m'installe maintenant dans le domaine des vitesses relatives de la pensée, une pensée qui va plus ou moins vite, je m'explique, vous comprenez ce problème, j'y tiens parce que c'est une espèce de problème pratique. Je ne veux pas dire qu'il faille mettre peu de temps à la pensée. Bien sûr, la pensée est une chose qui prend extraordinairement de temps. Je veux parler des vitesses ou des lenteurs produites par la pensée. Tout comme un corps a des effets de vitesse et de lenteur suivant les mouvements qu'il entreprend. Et il y a des moments où il est bon pour le corps d'être lent. Il y a même des moments où il est bon pour le corps d'être immobile. Ce n'est pas des rapports de valeur. Et peut-être que la vitesse absolue et une immobilité absolue, ça se rejoint absolument. S'il est vrai que la philosophie de Spinoza procède comme et par un étalement sur une espèce de plan fixe, s'il y a bien cette espèce de plan fixe spinoziste où toute sa philosophie s'inscrit, c'est évident qu'à la limite, l'immobilité absolue et la vitesse absolue ne font plus qu'un. Mais dans le domaine du relatif, des quatre premiers livres, parfois il faut que la pensée produise de la lenteur de son propre développement, et parfois il faut qu'elle aille plus vite, la vitesse relative de son développement relatif à tel ou tel concept, à tel ou tel thème.
Vous venez d'entendre la voix de Gilles Deleuze, grand amoureux du cinéma, grand théoricien du cinéma aussi. Là, il parle de Spinoza et de cette lenteur du corps et de la pensée. Et quand on voit votre dernier film, Nadav Lapid, synonyme, on ne peut que penser justement à cette possibilité qu'a le corps de pouvoir se métamorphoser et en se métamorphosant, de voir la possibilité d'une nouvelle vie à devenir. Il y a quelque chose de très étrange dans la tonalité de votre cinéma. Et plus particulièrement dans ce troisième film, c'est un mélange de grand réalisme et en même temps de prophétisme, comme si vos sources les plus profondes, vous les puisiez dans la philosophie et peut-être dans l'Ancien Testament, et comme si la caméra essayait de dévoiler ce que vous pensiez au plus profond de vous-même. Alors ça donne un mélange assez explosif.
Merci. D'abord, il faut que je dise que qu'en faisant le film, mes films me paraissent. Enfin, quand je fais un film, il me paraît comme le seul film possible à faire. C'est-à-dire, je ne suis pas, je cherche pas de mélanger A et B. J'imagine que ce sont des choses très instinctives chez moi. Je sais d'ailleurs que l'époque des préparations des synonymes était, je crois, la plus belle période de ma vie. Et c'était la plus belle période de ma vie. Parce que ma tête n'a pas cessé d'asperger des idées de mise en scène. J'avais l'impression, je suis allé le matin au supermarché, je suis revenu avec 3 tomates et 5 idées de mise en scène. Et j'avais l'impression, je pense, d'une certaine manière, comme si j'ai résolu enfin cette dichotomie, à quel pays vivre, vivre en Israël, vivre en France, non, vivre dans le pays du cinéma. Et après, je pense encore une fois que moi je suis dirigé par la manière que j'observe la vie, l'existence et le monde. Je crois qu'on sait très bien que notre existence est chaotique dans le sens que on vit sous tous les registres en même temps, quoi. On vit pas une, comédie identitaire, on ne vit pas une tragédie familiale, on ne vit pas un drame érotique. On vit tout cela ensemble et les choses se mélangent et se confondent. Et je crois que très, très souvent, bizarrement, c'est le cinéma qui met l'ordre là où il faut semer le chaos.
Vous savez, dans cette émission, non, vous ne savez pas, parce que vous ne l'écoutez pas, vous vivez en Israël. Mais en tout cas, dans cette émission, on demande à quelqu'un qui connaît bien le travail de l'invité de s'exprimer à son propos. Nous avons pensé à une cinéaste que nous chérissons et que nous aimons infiniment, qui s'intéresse elle aussi beaucoup au corps, et ce, depuis qu'elle a commencé à faire du cinéma, qui s'intéresse beaucoup à sa propre existence, non pas pour faire de l'autobiographie, mais pour essayer par l'art et le cinéma de restituer des parties et des fragments de son existence, un peu comme vous, Nadav Lapid. Je veux parler de Claire Denis. Nous lui avons demandé ce qu'elle pensait de votre cinéma. Écoutez.
Fin janvier à Clermont-Ferrand, il était en short, crâne rasé, en t-shirt. Je lui disais, cet homme, ce jeune soldat, m'épatait, quoi. Dans ma tête, je l'appelais le jeune soldat. Mais je savais pas vraiment qui c'était. J'ai honte de le dire, hein. Et donc, je suis allée voir son film. Dès la première image, j'ai eu un choc, quoi, de voir que cet acteur m'a tout de suite paru assez semblable à l'homme que j'avais rencontré à Clermont-Ferrand. Ensuite, j'ai beaucoup aimé le film. J'ai beaucoup aimé la brutalité du filmage. Et j'ai aimé quelque chose que j'ai connu en Israël chaque fois que j'y suis allée. Je suis toujours frappée par... Il n'y a pas de périphrase. Les gens sont... Aujourd'hui, on dirait ils sont cash, mais j'aime pas cette expression-là. Mais ils parlent sans périphrase, quoi. Ils balancent ce qu'ils ont à dire sans joliesse, quoi. Parfois, on a l'impression en Israël que nous, les vieux Européens, on est encore pétris de tas de trucs qui nous empêchent d'exprimer brutalement ce qu'on pense. Ce qui fait que dans son film, Synonyme, je me suis reconnue plus du côté du personnage principal que du côté des Français. Je me disais, en regardant le film, les gens riaient. Et moi, je riais pas du tout parce que je retrouvais cette espèce d'angoisse que j'ai eue chaque fois que je vais en Israël. Ou plutôt pas d'angoisse, mais de chagrin. Ben, la question, je la lui poserais presque en m'adressant à lui par rapport à son corps. Il savait quand il rentrait dans la salle des petits déjeuners à Clermont-Ferrand le matin, en short, en t-shirt, qu'il était déjà comme d'ailleurs. D'un autre monde, comme d'un monde mutant. Et je me suis demandé s'il se rendait compte que son corps, que son apparence physique, son corps même, qui a été soldat, avait encore cette soldatesque en lui.
Le coq est français. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il est courageux et fort et se lève tôt. Au passé, ça donne. Le coq était courageux.
Le coq était courageux. Le coq était fort. Et se levait tôt.
Au futur.
Le coq français sera courageux, sera fort et se lèvera tôt.
Très bien. La formation civique est obligatoire depuis 2002. Tout le monde n'obtient pas la nationalité française. Si vous êtes assassin, si vous êtes trafiquant, si vous avez sauté la barrière du métro sans autorisation. Monsieur Keïta, j'adore votre nom. J'ai des Keïta tous les jours. Il faut faire des efforts. D'accord ?
D'accord.
On va vous poser des questions. Combien de départements ? Combien de mairies ? Combien de présidents de la Ve République ? De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, que vous pouvez appeler Valérie. Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron. Notre hymne s'appelle...
La Marseillaise.
La Marseillaise. Qui veut lire les paroles? Vous?
Je m'appelle Iline, je viens de Taïwan.
Vous êtes timide?
Pas du tout.
Nous avons donc entendu le point de vue de Claire Denis, cinéaste. Je rappelle que c'est l'auteur de Beau Travail, qui était un film sur la Légion et sur le corps des hommes à l'intérieur de la discipline militaire, ce qui évidemment est en écho avec votre dernier film, La Dave Lapide, synonyme. Et là, nous venons d'entendre un court extrait du dernier tiers de votre film, synonyme, le moment où votre personnage principal, Yoav, qui vous ressemble étrangement, veut essayer de devenir français. Il va donc suivre des cours de citoyenneté. Et finalement, on va pas délivrer, parce que ça serait stupide vis-à-vis de nos auditeurs et nos auditrices qui vont découvrir votre film. Mais il y a quand même beaucoup d'énigmes à la fin de votre film qui restent délibérément en l'air, en suspens. Cet Israël tant abhorré, ce pays qu'il veut fuir parce qu'il a l'impression qu'il va... Il ne peut qu'en mourir de retourner en Israël. Pourquoi tout d'un coup, cette haine disparaît-elle et cette haine va-t-elle vraiment disparaître? On n'a qu'une patrie, c'est la sienne, celle de l'origine.
J'imagine que non. Enfin, je ne crois pas que même avec. C'est-à-dire, si au début du film, Yoav fuit, enfin, il est un peu comme quand on dit des Voltaire pour moi, il fuit le pire pays au monde, pour lui, Israël, pour arriver au meilleur pays au monde, la France. Et après, on sait très bien qu'à la suite de chaque illusion, il y a la désillusion, de chaque enchantement, le désenchantement. Mais le fait d'être déçu par la France, mais déçu... Je pense qu'il est déçu d'ailleurs par la France à sa manière à lui, parce que pour lui, la France a perdu sa gloire du passé. Et lui, tant qu'en Messie, tant qu'en Bonaparte moderne, est arrivé en France pour donner une sorte de piqûre aux Français un peu ensommeillés avec les stéroïdes révolutionnaires qui se sont épuisés avec les années qui passaient. Et pour lui, l'Empire français est en train de sombrer petit à petit, et il veut la remettre là, elle doit l'être au sommet de l'Olympe. Mais il n'y arrive pas, il se trouve que face aux portes fermées. Est-ce que le fait de revenir en Israël veut dire qu'il va vivre, que c'est une sorte de réconciliation? Je n'y crois pas. Peut-être. Ça veut dire que la question, c'est pas tant qu'est-ce que vous haïssez, qu'est-ce que vous aimez, mais qui vous êtes.
Ben merci beaucoup, Nadav Lapide. On pourra dire qu'une chose, c'est que la fin du film, c'est une porte fermée. Merci infiniment pour ce très beau film qui s'intitule Synonyme. Et on va se quitter en écoutant une chanson de L'Homme Pâle qui vous est particulièrement destinée. Ça s'intitule Trop beau.
J'avais jamais vu de nuit aussi calme. Hey, je la regarde enchaîner les cigarettes. Hey, ses larmes coulent en silence, on entend toujours les cigales. On se blesserait même avec zéro mot. Pourtant aucun mur sur cette terre ne pourrait étouffer le cri de nos phéromones. On risque pas de tenir longtemps. Tu m'as même comparé à Lucifer. Maintenant tu bois et tu veux bien de moi. Non mais j'hallucine, hein. Je sais déjà ce que la distance entraîne. Soit c'est la guerre pendant 10 ans sans trêve. Soit je la quitte en lui disant: garde le sourire, plus rien n'est grave. Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne, nos deux corps pourraient mourir. J'ai déjà fait le deuil. Maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions m'effraient.
Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai. Bébé, ça moins fort que j'oublie que c'est le chaos. Autour c'est le chaos. Regarde-nous, le destin pas honte. Les dieux ont pas honte. J'ai tout foiré cette année, c'est toujours en chantier. Est-ce qu'on peut revenir en janvier? Son regard me traverse le corps comme une longue aiguille. On dirait bien qu'on est cuit, nous deux dans la même voiture, on fonce vers la mort. On se déteste tellement qu'on refait l'amour. Parce que c'est comme de la drogue, on a de quoi planer. Sur son dos, mon corps, je fais de l'aquaplaning. Le problème, c'est que ça me rappelle pourquoi je l'aime. Je revois le début, les premières semaines. On pourrait repartir à zéro et prendre le premier avion comme dans un film de merde. Mais c'est du délire, garde le sourire. Plus rien n'est grave, tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne. Nos deux corps pourraient mourir, j'ai déjà fait le deuil. Maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions m'effraient. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai.
Merci à Juliette, Juliette Delperroux qui était à la technique ce soir au conseil musical de Jean-Baptiste Audibert. Merci à l'équipe, Élodie Royan, Sophie Dazard, Antoine Joubert. Merci à Lilian Allôme qui a réalisé cette émission.